Madame Heurtebise. Celle-là, certes, n'était pas faite pour épouser un artiste, surtout ce terrible garçon, passionné, tumultueux, exubérant, qui s'en allait dans la vie, le nez en l'air, la moustache hérissée, portant avec crânerie, comme un défi à toutes les conventions sottes, à tous les préjugés bourgeois, son nom bizarre et fringant de Heurtebise. Comment, par quel miracle, cette petite femme, élevée dans une boutique de bijoutiers, derrière des rangées de chaînes de montres, de bagues enfilées, trouva-t-elle moyen de séduire ce poète? Imaginez les grâces d'une dame de comptoir, des traits indécis, des yeux froids, toujours souriants, une physionomie complaisante et placide, pas de vraie élégance, mais un certain amour du luisant, du clinquant, qu'elle avait pris sans doute à la devanture de son père, et qui lui faisait rechercher les nœuds de satin assortis, les ceintures, les boucles. Avec cela, des cheveux tirés par le coiffeur, bien lissés de cosmétique, au-dessus d'un petit front têtu étroit, où l'absence de rides marquait moins la jeunesse qu'une nullité complète d'idées. Ainsi faite, Heurtebise l'aima, la demanda, et comme il avait quelque fortune, n'eut pas de peine à l'obtenir. Elle, ce qui lui plaisait dans ce mariage, c'était l'idée d'épouser un auteur, un homme connu, qui lui donnerait des billets de spectacle autant qu'elle voudrait. Quant à lui, je crois qu'en définitive, cette fausse élégance de boutique, ces façons prétentieuses, bouche pincée, petits doigts en l'air, l'avait ébloui, comme le dernier mot de la distinction parisienne, car il était né paysan et au fond, malgré son esprit, il le resta toujours. Tenté de bonheur paisible, de cette vie de famille dont il était privé depuis si longtemps, Heurtebise passa 2 ans loin de ses amis, s'enfouissant dans la campagne, dans des coins de banlieue, toujours à la portée de ce grand Paris qui le troublait et dont il recherchait l'atmosphère affaiblie, comme ces malades auxquels on ordonne l'air de la mer, mais qui, trop délicats pour le supporter, viennent le respirer à quelques lieues de distance. De loin en loin, son nom apparaissait dans un journal, dans une revue, au bas d'un article. Mais déjà, ce n'était plus cette vendeur, verdeur de style, ces emportements d'éloquence qu'on lui avait connus. Alors nous pensions, oh, il est trop heureux, son bonheur le gâte. Puis un jour, il revint parmi nous et nous vîmes bien qu'il n'était pas heureux. Sa mine pâlie, ses traits resserrés, contractés par un perpétuel agacement, la violence de ses manières rapetissées en colère nerveuse, son beau rire sonore déjà fêlé en faisait un tout autre homme. Trop fier pour convenir qu'il s'était trompé, il ne se plaignait pas, mais les anciens amis auxquels il rouvrit sa maison purent vite se convaincre qu'il avait fait le plus sot des mariages et que sa vie était désormais hors de voie. Par contre, Madame Heurtebise nous apparut, après 2 ans de ménage, telle que nous l'avions vue dans la sacristie le jour des noces. Son même sourire, minaudier et calme, son même air de boutiquière endimanchée, seulement l'aplomb lui était venu. Elle parlait maintenant. Dans les discussions artistiques où Heurtebise se lançait passionnément avec des jugements absolus, le mépris brutal ou l'enthousiasme aveugle, la voix mielleuse et fausse de sa femme venait tout à coup l'interrompre, l'obligeant à écouter quelques raisonnements oiseux, quelques réflexions sottes, toujours en dehors du sujet. Lui, gêné, embarrassé, nous regardait d'un œil qui demandait grâce, essayait de reprendre la conversation interrompue. Puis, devant la contradiction intime et persistante, la sottise de cette petite cervelle d'oisillon, gonflée vite comme un échaudé, il se taisait, résigné à la laisser aller jusqu'au bout. Mais ce mutisme exaspérait madame, lui paraissait plus injurieux, plus dédaigneux que tout. Sa voix aigre douce devenait criarde, montait, piquait, bourdonnait avec un harcèlement de mouches jusqu'à ce que le mari, furieux, éclatât à son tour, brutal et terrible. De ces querelles incessantes, qui se terminaient par des larmes, elle sortait reposée, plus fraîche, comme une pelouse après l'arrosage. Et lui, chaque fois brisé, fiévreux, incapable de tout travail. Peu à peu, sa violence même se lassa. Un soir que j'avais assisté à une de ces scènes pénibles, que Madame Hurtebise sortait de table, triomphante, je vis sur la figure de son mari, resté baissé pendant la querelle qu'il relevait enfin, l'expression d'un mépris, d'une colère que les paroles ne pouvaient plus traduire. Rouge, les yeux pleins de larmes, la bouche tordue d'un sourire ironique et navrant, pendant que la petite femme s'en allait en refermant la porte d'un coup sec, il lui fit, comme un gamin dans le dos de son maître, une grimace atroce de rage et de douleur. Au bout d'un moment, je l'entendis murmurer d'une voix étranglée par l'émotion. « Oh, si ce n'était pas l'enfant, comme je filerais !» Car ils avaient un enfant, un pauvre petit superbe et malpropre, qui se traînait dans tous les coins, jouait avec les chiens plus grands que lui, la terre et les araignées du jardin. La mère ne le regardait que pour constater qu'il était dégoûtant, et regretter de l'avoir pas mis en nourrice. Elle avait en effet gardé ses traditions de petite bourgeoise de comptoir, et leur intérieur en désordre, où elle promenait dans le matin des robes parées et des coiffures étonnantes, rappelait les arrière-boutiques si chères à son cœur, les pièces noires de crasse et de manque d'air où l'on passe vite dans les entractes de la vie de commerce, pour manger à la hâte un repas mal fait sur une table sans nappe, l'oreille au guet tout le temps vers la sonnette de la porte. Dans ce monde-là, il n'y a que la rue qui compte, la rue où passent les acheteurs, les flâneurs, et ce débordement de peuple en vacances qui, le dimanche, remplit le trottoir et la chaussée. Aussi, comme elle s'ennuyait, la malheureuse, à la campagne, comme elle regrettait son Paris. Hurtebise, au contraire, avait besoin des champs pour la santé de son esprit. Paris l'étourdissait comme un provincial en visite. La femme ne comprenait pas cela et se plaignait beaucoup de son exil. Pour se distraire, elle invitait d'anciennes amies. Alors, si le mari n'était pas là, on s'amusait à feuilleter ses papiers, les notes, les travaux en train. Voyez donc, ma chère, comme c'est drôle. Il s'enferme pour écrire ça. Il marche, il parle tout seul. Moi, je ne comprends rien du tout à ce qu'il fait. Et c'était des regrets sans fin, des retours sur le passé. Oh, s'il avait su, quand je pense que je pouvais épouser Auberto et Fajon, les marchands de blancs. Elle citait toujours les deux associés en même temps, comme si elle avait dû épouser l'enseigne. En présence du mari, on ne se gênait pas davantage. Elle le dérangeait, empêchait tout travail, installant dans la pièce même où il écrivait la causerie niaise des femmes oisives qui parlaient haut, pleines de dédain pour ce métier de littérateur qui rapporte peu et dont les heures les plus laborieuses ressemblent toujours à une capricieuse oisiveté. De temps en temps, Hurtebise essayait d'échapper à cette existence qu'il sentait devenir chaque jour plus sinistre. Il accourait à Paris, prenait une petite chambre à l'hôtel, voulait se figurer qu'il était garçon. Mais tout à coup, il pensait à son fils, et avec une envie folle de l'embrasser, retournait le soir même à la campagne. Dans ces cas-là, pour éviter la scène du retour, il emmenait un ami avec lui et le gardait là-bas le plus qu'il pouvait. Dès qu'il n'était plus seul en face de sa femme, sa belle intelligence se réveillait et ses projets de travail, interrompus peu à peu après l'autre, lui revenaient au cœur. Mais quel déchirement quand on partait! Il aurait voulu retenir ses visiteurs, s'accrochait à eux de toute la force de son ennui. Avec quelle tristesse il nous accompagnait à la station du petit omnibus de banlieue qui nous ramenait vers Paris! Et comme nous partîmes sans retourner lentement sur la route poudreuse, le dos rond, les bras inertes, écoutant les roues qui s'éloignaient, c'est que le tête-à-tête était devenu insupportable. Pour l'éviter, il prit le parti d'avoir la maison toujours pleine. Son bon cœur aidant, sa lassitude, son insouciance, il s'entoura de tous les meurtres de faim de la littérature. Un tas de valets de lettres, paresseux, toqués, visionnaires, s'installèrent chez lui, plus que lui. Et comme la femme était très sotte, incapable de juger, elle le trouvait charmant, supérieur à son mari parce qu'il criait plus fort. La vie se passait en discussions oiseuses. C'était un fracas de mots vides, de poudre aux moineaux, et le pauvre Heurtebise, immobile et muet au milieu de tout ce tapage, se contentait de sourire en haussant les épaules. Quelquefois pourtant, quand, à la fin d'un repas interminable, tous ses convives, les coudes sur la nappe, commençaient autour du flacon d'eau-de-vie une de ces longues flâneries de paroles asphyxiantes comme le brouillard des pipes, un immense dégoût le prenait, et n'ayant pas la force de renvoyer tous ces malheureux, il s'en allait lui-même et restait 8 jours sans revenir. « Ma maison est pleine d'imbéciles !» me disait-il un jour. « N'ose plus rentrer !» Avec ce train de vie, il n'écrivait plus. Son nom devenait rare et sa fortune, gaspillée à ce perpétuel besoin de mondologie, s'en allait aux mains tendues autour de lui. Il y avait longtemps que nous nous étions vus lorsqu'un matin, je reçus un mot de sa chère petite écriture autrefois si ferme, maintenant hésitante et tremblante. « Nous sommes à Paris, viens me voir, je m'ennuie. » Je le trouvais avec sa femme, son enfant, ses chiens, dans un lugubre petit appartement de Batignolles. Le désordre qui n'avait plus l'espace pour s'étaler semblait encore plus affreux qu'à la campagne. Pendant que l'enfant et les chiens se roulaient dans des chambres grandes comme des cases d'échiquier, Heurtebise, malade, était couché, le visage au mur, dans un état de prostration complète. La femme, toujours en tenue, toujours placide, le regardait à peine. « Mais c'est pas ce qu'il a !» me dit-elle avec un geste d'insouciance. Lui, en me voyant, retrouva un moment de gaieté, une minute de son bon rire, mais aussitôt étouffé. Comme on avait gardé à Paris les habitudes de la banlieue, à l'heure du déjeuner, dans ce ménage bouleversé par la gêne, la maladie, il arriva un parasite, petit homme chauve, râpé, roide, grincheux, qu'on appelait dans la maison l'homme qui a lu Proudhon. C'est ainsi que Heurtebise, qui n'avait sans doute jamais lu son nom, le présentait à tout le monde. Quand on lui demandait « Qui est ça ?» il répondait avec conviction « Oh, un garçon très fort, qui a beaucoup lu Proudhon. » Il y paraissait guère du reste, car cet esprit profond ne se manifestait jamais qu'à table pour se plaindre d'un rôti mal cuit ou d'une sauce manquée. Ce matin-là, l'homme qui avait lu Proudhon déclara le déjeuner détestable, ce qui ne l'empêcha pas d'en dévorer la moitié à lui tout seul. Qu'il me sembla long et lugubre ce repas au chevet du malade. La femme bavardait, comme toujours, avec une tape par-ci par-là à l'enfant, un os au chien, un sourire au philosophe. Pas une fois Heurtebise ne se tourna vers nous, et pourtant il ne dormait pas. Je ne sais même pas s'il pensait. Cher et vaillant garçon, dans ses luttes mesquines et continuelles, le ressort de sa nature vigoureuse s'était brisé, et il commençait déjà à mourir. Cette agonie silencieuse, qui était plutôt un renoncement de vivre, dura quelques mois. Puis Madame Hurtebise se trouva veuve. Alors, comme les larmes n'avaient pas obscurci ses yeux clairs, qu'elle avait toujours le même soin de ses cheveux lisses, et qu'Oberto et Fajot étaient encore disponibles, elle épousa Oberto et Fajot. Peut-être Oberto, peut-être Fajot, peut-être même tous les deux. En tout cas, elle put reprendre la vie pour laquelle elle était faite, le bavardage facile et l'éternel sourire des dames de comptoir.